Retrouvez Dear Veil People tous les jeudis à midi 10 et 18h10 sur les ondes de Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble.
Et bonjour à tous, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de Dear Veil People. Aujourd'hui, c'est une nouvelle thématique qui s'annonce, une thématique assez particulière puisqu'on va parler d'intersectionnalité et de handicap. En effet, le handicap ne concerne pas uniquement le secteur médical, on n'est pas juste handicapé, on peut appartenir à d'autres minorités, que ce soit au niveau du genre, au niveau de son orientation sexuelle, au niveau du racisme même. Et aujourd'hui, pour en parler, je reçois Axel Boué qui va nous parler de transidentité et de handicap. Bonjour Axel.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va bien. Et toi?
Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditories, s'il te plaît?
Ouais. Alors, je suis doctorant en art plastique, je fais une thèse qui parle de validisme et de psychophobie dans les jeux vidéo. À côté de ça, je suis militant anti-validiste dans plusieurs collectifs, bon, qui pour l'instant font pas grand-chose, mais on va s'y mettre. On a du mal quand on est tous handicapés, on avance à deux à l'heure, mais notamment le collectif Psychophobie et Oppression Systémique sur Internet. Et je suis aussi game designer et illustrateur, donc je fais des jeux vidéo qui parlent parfois de validisme, parfois d'autres choses, avec le collectif Gamaturgie de création de jeux.
Et est-ce que tu peux aussi nous expliquer en quoi la thématique du mois, tu es sujet à cette thématique plus ouais. Particulièrement?
Alors, je suis polyhandicapé, je suis fou, donc je suis psychotique et autiste, et j'ai aussi une maladie physique qui s'appelle le syndrome d'Ehlers dans l'os. Même si en ce moment, j'ai un traitement qui marche bien, donc je ne sais même pas si je me dis encore vraiment handicapé physique parce que c'est plutôt calme, mais bon, selon les périodes, ça dépend. Et je suis aussi un homme trans non-binaire, donc pareil, je suis concerné par la transidentité.
Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est la transidentité pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est?
Alors, c'est le fait d'être d'un genre autre que le genre qu'on nous a assigné à la naissance. Enfin, par exemple, moi, à ma naissance, on a décrété que j'étais une fille, sauf que ce n'était pas le cas. Donc, je suis un garçon ou non-binaire. Donc, non-binaire, c'est-à-dire ni homme ni femme, un peu entre les deux ou un peu ailleurs. Donc, voilà, le fait d'être trans, c'est ça. C'est d'avoir un moment dans sa vie dit qu'on n'était pas du genre qu'on nous avait assigné et décider de s'affirmer dans le genre qu'on est réellement.
Est-ce qu'il y a un moment dans ton développement, en fait, où tu as commencé à te poser des questions? À quel moment est-ce que ça vient?
Moi, ça fait 4 ans à peu près que je sais que je suis trans et que j'ai fait ma transition. Je sais que ça a mis du temps à venir, notamment parce qu'avant, j'ai appris que j'étais autiste, puis après, j'ai appris que j'étais psychotique, puis j'avais bien l'esprit occupé par tout un tas d'autres choses. Donc, la transidentité, c'est venu un peu plus tard. Mais globalement, c'est en voyant d'autres personnes trans et en me disant que c'était possible, je me suis rendu compte que je serais beaucoup mieux en garçon qu'en fille. Et on parle souvent de la dysphorie de genre, du mal-être des personnes trans qui poussent à transitionner, mais on parle moins du côté plus que positif qui est l'euphorie de genre, le fait de se sentir tellement mieux et tellement à l'aise dans un autre genre que ça vaut le coup de transitionner.
Oui, totalement, ça vaut toujours le coup d'être réellement qui on est, je pense.
Ouais.
Et donc, c'est là où on va aussi parler donc, du handicap. Comme tu as pu dire, tu as eu plusieurs diagnostics qui sont arrivés plus ou moins en même temps, qui sont un petit peu mélangés avec ton diagnostic, on peut dire ça comme ça, de transidentité. Comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là?
Alors, j'ai su que j'étais autiste vers 22 ans, je crois. Enfin, là, j'en ai 29, donc ça fait un petit moment. Après, en fait, j'ai toujours pas de diagnostic pour l'autisme parce que les centres de ressources autistiques sont très, très nuls. Ils sont pas formés à diagnostiquer les adultes. Ils sont pas, mais bon, enfin, je me suis auto-diagnostiqué, plus diagnostic confirmé par d'autres pairs, de plein de personnes autistes que j'ai rencontrées. Après, j'ai su que j'étais trans, du coup, il y a 4 ans à peu près. Ça fait 4 ans que j'ai commencé à me poser des questions. J'ai fait un coming out très rapidement parce que ça a été vraiment une révélation d'un coup. Et après, le fait d'être psychoptique, ça, c'est arrivé beaucoup plus récemment. J'ai été diagnostiqué il y a 2 ans, je crois. Sachant que les psys n'étaient pas d'accord entre eux, donc ça fait vraiment qu'un an que j'en suis sûr. Et pour le syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est pareil, j'étais diagnostiqué à peu près en même temps que j'ai su que j'étais trans il y a 4 ans, un truc comme ça. Après une longue errance médicale, parce que c'est une maladie qui se déclare à l'adolescence, donc je commençais à être malade vers 14-15 ans, et tout le monde pensait que j'avais rien, pensait que c'était dans ma tête et que j'étais juste fou. Bon, il se trouve que j'étais fou, mais que ça avait rien à voir. Et donc, ouais, j'étais diagnostiqué il n'y a pas si longtemps que ça.
Tu utilises facilement le terme fou. Pour toi, comment tu peux le définir? Parce que c'est vrai que je pense que pour la plupart des gens, ça doit être assez particulier.
Pour pas mal de personnes, c'est vrai que c'est une insulte. Moi, je l'utilise dans une logique de réappropriation de stigmates, un peu comme pour le queer, on décide de s'appeler pédéguine pour que ce soit plus une insulte et pour avoir se réapproprier le sens du mot. Et du coup, fou, c'est un synonyme de neuroatypique, psychoatypique, du fait d'être en dehors des normes, enfin d'avoir une maladie ou une neuroatypie psychiatrique. Donc, ouais, j'utilise dans ce sens-là.
Pour toi, est-ce que il y a un lien entre tes différents handicaps et ta transidentité? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent entre les deux ou pas? Que ça soit en toi ou au niveau de la société?
Bah ouais, à la fois en moi, à la fois au niveau de la société, il y a pas mal de points communs. Enfin, déjà, le gros point commun, c'est que ces deux identités qui font être hors normes, qui font que par notre simple existence, on bouscule les normes établies. Je sais que moi j'ai toujours ressenti la pression à performer une identité normale, dans le sens il fallait que je performe une identité de fille et de personne neurotypique et valide. Enfin, j'ai toujours cette impression que les genres sont faits pour des personnes valides. Enfin, pour être un garçon, il faut être fort, pour être une fille, il faut être gracieux, et moi je pouvais être à peu près ni l'un ni l'autre. Et du coup, j'ai vraiment toujours, enfin, je sais que quand j'ai su que j'étais autiste, je me suis dit, ouais, ça résout un peu pas mal de questions, pourquoi je suis nul en relation sociale, pourquoi il y a plein de codes auxquels je comprends rien, mais je me rendais compte qu'il manquait encore quelque chose, quoi, qu'il manquait vraiment le fait d'être trans. Et je pense que, ouais, enfin, que la pression, elle lie vraiment les deux en même temps, quoi. J'ai souvent du mal à différencier quand je suis hors norme, qu'est-ce qui vient de la transidentité, qu'est-ce qui vient des handicaps, des trucs comme ça. Après, il y a aussi, au niveau universitaire, au niveau de la société, il y a la théorie CRIP qui fait un lien entre les identités queer et les identités handicapées. Le CRIP, c'est aussi un mot qui est dans une logique de réappropriation de stigmates. En gros, ça vient de l'insulte cripple, qui veut dire boiteux, marche irrégulière, tout ça. Et on se le réapproprie en disant qu'on est CRIP. Et il y a les mêmes idées que l'identité valide est une construction sociale comme la masculinité, l'hétérosexualité, et que c'est cette construction sociale de normes qui crée des personnes hors normes et qu'on crée nos identités par performance, c'est-à-dire par répétition d'action. Enfin, c'est peut-être un peu compliqué, je ne sais pas si je détaille là-dessus ou si je m'arrête là parce que c'est trop du bordel universitaire, mais ouais, il y a pas mal de liens au niveau de la pratique et au niveau de la vie courante.
En effet, on va peut-être épargner nos auditeurs, mais en tout cas, tout ça pour dire que la théorie CRIP, tu m'arrêtes si je me trompe, elle est aussi développée beaucoup par les disability studies d'abord.
Ouais, c'est ça.
Et bon, petit à petit en France, on voit un petit peu des choses arriver, mais il y en a encore pas beaucoup. Mais pour expliquer que, en effet, autant l'hétérosexualité, la dominance masculine, autant le validisme, ce sont des constructions sociales et qu'on peut démonter si on y prend conscience. Donc, il y a plein de choses, comme tu n'arrives pas à différencier si ça vient de la transidentité ou si ça vient du handicap de l'autre, surtout que tu en as plusieurs, handicaps de plusieurs natures. Pour toi, je suppose que ça a été aussi, comme tu dis, quelque chose de positif, puisque via cette diagnostic, tu as appris pourquoi tu étais, pour reprendre tes termes, ni gracieux, ni fort, et que ça permettait un petit peu de, comment dire, mettre un curseur sur qui tu étais, peut-être.
Ouais, effectivement, ça m'a vachement aidé d'avoir les diagnostics et la révélation d'être trans. Je sais pas trop quoi dire de plus par rapport à ça, mais j'ai déjà un peu parlé, mais ouais, ça aide à se comprendre et à comprendre son rapport aux autres. Et je pense que quelque part, j'ai eu de la chance d'apprendre que j'étais handicapé physique avant d'apprendre que j'étais handicapé mental, parce que la psychophobie me paraît vachement plus difficile de s'en débarrasser. Je sais que j'ai commencé à apprendre que c'était ok d'être handicapé, que c'était pas si grave, que c'était pas honteux, que c'était pas de notre faute, tout ça, avec le handicap physique. Et après, j'ai pu l'appliquer au handicap psy, hein, me dire que bon, bah, je suis moins productif que la moyenne, j'ai besoin de dormir beaucoup, j'ai des médicaments qui fatiguent, des trucs comme ça. Et j'ai pu reporter ce que j'avais appris avec le validisme physique sur la psychophobie et me déculpabiliser de tout ça, me dire que c'était ok.
Et en apprenant à te dire que c'était ok, t'as réussi à trouver un équilibre entre ces différents pôles, je dirais, entre le syndrome des lèvres dans l'eau, être psychotique, être trans. Il y a un équilibre à trouver, je suppose, entre ces quatre éléments.
Ouais, bah, il y a un équilibre à trouver parce que ça fait être exclu de la société à plein de niveaux. Enfin, par exemple, je sais que la notion de coming out qui est surtout utilisée pour les personnes queer, moi je l'applique aussi à handicap parce que j'ai pas des handicaps qui sont très visibles. Du coup, je dois dire que je suis handicapé. Et je sais que j'ai dû trouver un équilibre vraiment en changeant mes relations aux autres, en changeant mes rythmes de vie. Je sais que je sors pas très souvent de chez moi, je vois peu de personnes, je choisis bien les personnes que je vois. Parce que ouais, trouver des personnes qui soient ni validistes, ni psychophobes, ni transphobes et tout, c'est super compliqué. Et je sais que Je sais que j'ai un peu l'habitude presque de donner un mode d'emploi de moi-même au moment où je rencontre des nouvelles personnes. Genre, alors si tu m'invites quelque part, il faut que ce soit dans un lieu calme, il ne faut pas qu'il y ait besoin de marcher beaucoup ni de faire du vélo pour y aller. Faut pas, enfin, maintenant que j'ai un passing de mec plus ou moins cis, enfin, passing, ça veut dire qu'on prend spontanément pour un homme. J'ai un peu moins besoin d'expliquer ce que c'est qu'être trans, mais avant, je devais expliquer oui, alors tu me prendras sûrement pour une fille, mais en fait, ce n'est pas le cas. Je suis un garçon, tout ça. Et ouais, donc, ça fait vraiment un équilibre à trouver dans tout ça.
Je suppose que. Pendant ta transition, en effet, ça n'a pas toujours été clair, je dirais, pour les autres.
Ouais, ben là, ça fait 2 ans que je prends des hormones et du coup, les 2 premières années, j'en prenais pas. Et donc, effectivement, j'avais une apparence. Enfin, bon, les hommes peuvent avoir toutes sortes d'apparences. Et pour moi, j'étais déjà un homme, donc j'avais déjà une apparence masculine. Mais par rapport aux personnes cisgenres qui n'y connaissent rien, c'est vrai que c'est assez délicat de leur expliquer que quand t'as pas de barbe et que t'as des seins, t'es un garçon quand même. C'est toujours assez dur de faire comprendre ça aux gens. Hein.
Je ne sais pas si tu connais cet auteur Paul B. Preciado qui, dans son recueil de nouvelles qu'il avait fait publier au Figaro, si je ne dis pas de bêtises, parle de sa transidentité, sa transition avec beaucoup de générosité. Le livre s'appelle « Un appartement sur Uranus ». Et justement, il nous a expliqué ben, cette dysphorie de genre et comment aussi, à son époque, qui n'est pas la nôtre, je pense, il a dû se reconnaître dysphorique de genre pour pouvoir avoir accès à la transition. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Est-ce que tu as dû reconnaître, te reconnaître
Ouais.
dans un état mental particulier?
Oui, alors c'est pas obligatoire par la, enfin c'est pas obligé par la loi quand on est trans de faire ça, mais par contre c'est très difficile de trouver des médecins qui donnent des hormones, qui font des opérations si on n'a pas une attestation de psychiatre qui dit qu'on est bien trans. Je sais plus si le terme est vraiment dysphorie de genre ou si c'est trouble dysphorique de l'identité, enfin bref, un jargon médical comme ça. Mais effectivement, il faut trouver une psychiatre qui accepte de nous faire une attestation qui dit oui, on est bien trans, on n'est pas fou. Là, ce qui est assez difficile, c'est que le but du psychiatre, c'est de vérifier notamment si on n'est pas psychotique et si notre désir de transition ne fait pas partie d'un délire. Donc moi, en étant psychotique, c'était sympa, les rendez-vous chez le psychiatre, je devais bien le cacher. Mais ouais, et donc ouais, c'est toujours le bazar pour ça. Après, maintenant, pour les papiers, pour le changement de prénom administratif et le changement de mention de sexe sur la carte d'identité, c'est plus obligatoire d'avoir ce truc-là. Ça a été démédicalisé, ça fait 2 ou 3 ans, je crois. Je ne sais plus exactement de quand ça date, mais c'est relativement récent. Donc maintenant, on peut faire notre changement de prénom et notre changement de genre juste avec des attestations de proches. J'ai fait le changement de prénom il n'y a pas longtemps, là, et je n'ai pas eu à parler de ça. Mais ouais, c'est une loi relativement récente qui a un peu simplifié les procédures, même si ça reste compliqué encore.
Donc, mais dans le cas de la transidentité, il y a un lien très fort avec le médical. Donc là, encore une fois, je trouve que ça se mélange bien avec le handicap ou en quelque part. Est-ce qu'on peut considérer que la transidentité est une forme de handicap dans la manière où elle est considérée dans le monde médical ou pas?
Bah, je trouve qu'il y a des liens, mais qu'on va quand même pas considérer ça comme un handicap parce que enfin, le validisme, c'est quand même basé sur le fait d'avoir des incapacités à correspondre à certaines attentes de la société. Et, enfin, je sais pas. Moi, je trouve quand même pas qu'on puisse dire que la transition est un handicap parce qu'il y a vraiment le côté, on peut tout faire pareil, quoi, que les personnes, enfin, on peut faire pareil que les personnes valides quand on est juste trans. Il y a quand même une différence par rapport à quand on est trans et handicapé. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du pouvoir médical sur les corps, les médecins qui veulent toujours nous redresser. Enfin, je sais que dans le handicap, par exemple, les médecins qui veulent jamais prescrire des fauteuils roulants et nous forcer à marcher jusqu'à ce qu'on n'en puisse vraiment plus parce qu'un être humain, ça doit rester debout. Il y a un peu cette même logique dans la transition avec les médecins qui veulent absolument qu'on devienne un homme ou une femme qui rentre totalement dans les stéréotypes de genre, qu'on fasse toutes les opérations qu'ils nous proposent. On n'a pas le droit de s'arrêter, de faire une opération et pas une autre, de prendre des hormones mais de pas vouloir d'opération. Enfin, donc il y a cette même logique de contrôle des corps et de vouloir faire rentrer dans les normes par le corps médical entre les deux.
Et aussi dans cette logique, le médical c'est un peu 0-1 en fait. Y a pas, on ne peut pas réellement moduler le curseur à son bon vouloir.
Ouais, c'est ça.
Finalement, c'est notre corps. On a envie d'en faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas. Le
Ouais, on
corps
se retrouve à
est
devoir
nous.
toujours mentir au médecin. Ouais, moi, je sais que pour avoir mon attestation, je lui ai dit que oui, je voulais toutes les opérations, que oui, j'avais toujours joué aux petites voitures et aimé le foot. Enfin, c'est quand même pas à ce point-là, mais c'est pas loin, quoi. Il y a vraiment. Sachant que moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé un psychiatre qui donnait cette fameuse attestation en 3 séances, mais les recommandations de l'organisme qui s'autoproclame spécialiste des personnes trans dit qu'il faut 2 ans de suivi psychiatrique pour avoir cette attestation. Donc 2 ans à jurer qu'on aime les petites voitures quand c'est pas le cas, c'est compliqué. Et c'est vraiment basé sur des stéréotypes complètement arriérés, et sur est-ce qu'on arrive à présenter bien dans notre genre. Enfin, donc oui, il y a vraiment, c'est zéro ou un, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. Ils ne savent pas que les personnes non binaires existent, et c'est compliqué à ce niveau-là. Ouais.
Et après cette première partie, déjà avec beaucoup d'informations, c'est déjà l'heure de notre pause musicale, chers auditoristes. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le titre de Lou Reed, Walk on the Wild Side. C'est un titre qui parle de transidentité pour ceux qui prendront le temps d'écouter les paroles et de les comprendre. Bonne écoute, chers auditoristes. À tout à l'heure.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo.
Se retrouve dans ce nouvel épisode d'Irail People sur une nouvelle thématique où on parle d'intersectionnalité, plus précisément de transidentité, toujours en compagnie de Axel Boué. Ça va toujours, Axel?
Ça va toujours.
Sur la première partie, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la fonction médicale lorsqu'on est en transidentitaire. On a parlé des différents handicaps. Pour toi, c'est quoi la problématique ? Est-ce qu'il y aurait une problématique aujourd'hui pour toi d'avoir ces trois handicaps différents de la transidentité ? Est-ce que pour toi, c'est des peines qui se rajoutent à chaque fois ou est-ce que c'est quelque chose de plus positif comme tu as pu nous dire précédemment ?
Alors, des peines qui se rajoutent, j'aime pas trop utiliser le mot peine pour le handicap parce que c'est un peu un mot, genre, enfin, toute la société voit le handicap comme quelque chose de tragique, comme quelque chose d'intrinsèquement négatif et enfin, je pense que c'est pas le cas. Mais après, c'est une double peine un peu dans le sens où bah, c'est une double pression, donc c'est doublement le bordel pour tout un tas de choses. Je sais que moi, un truc qui s'accumule vraiment, c'est l'impression de devoir tout le temps demander trop aux gens, l'impression d'être un boulet, même si je sais que c'est un peu du validisme intégré encore, dans le sens où, par exemple, à la fac, je devais à la fois demander des aménagements parce que j'étais pas toujours capable d'aller en cours en transportant mon ordinateur qui était trop lourd ou parce que je pouvais pas gérer la sociabilité des cours. Et après, je leur ai demandé de changer de prénom et de changer de pronom, de me parler au masculin et tout. Ça donne toujours l'impression qu'on demande des choses aux gens. En fait, c'est des choses qui sont simples et qui pourraient être naturelles, mais ça fait que les gens nous donnent l'impression qu'on leur est redevable, que... Ouais, des trucs comme ça, quoi. Que dans ce sens-là, c'est vraiment une double peine de devoir affronter toutes les merdes de la société et devoir à chaque fois expliquer non, c'est pas ça, je suis pas une fille, je suis un garçon, non, c'est pas ça, je peux pas faire de vélo, tout ça.
Alors que pour toi aussi, c'est peut-être quelque chose qui pourrait venir d'eux, qui pourrait venir d'une certaine curiosité peut-être saine.
Ouais, c'est vrai que la curiosité, elle est souvent plus malsaine qu'autre chose, mais c'est vrai que oui, les gens pourraient se former, c'est vrai qu'il y a ce. La présomption de validité, enfin, on pense toujours qu'on est valide et qu'on est cis, et les gens font jamais leur vie en pensant que c'est peut-être possible qu'on soit handicapé. Et j'ai oublié de répondre à la moitié de ta question tout à l'heure où tu disais que ça pouvait être des choses positives, le fait d'être handicapé et le fait d'être trans. Et pour le fait d'être trans, oui, effectivement, et pour le fait d'être handicapé, je sais que la psychose et l'autisme, c'est pas vraiment des maladies, c'est des neuroatypies. Enfin, pour la psychose, tout le monde n'est pas d'accord, mais moi, je le vois vraiment comme une neuroatypie dans le sens où c'est une différence de fonctionnement mental, mais qui n'est pas forcément intrinsèquement négative. Par exemple, je sais que les délires et les hallucinations, par exemple, ça fait être obligé de confronter nos problèmes, ça fait qu'on ne peut pas faire l'autruche et se dire non, j'ai un problème, mais c'est pas grave, j'y pense jamais, parce que la psychose nous balance à la gueule et nous fait le voir x10. Mais c'est plutôt positif parce que du coup, on est obligé de chercher à aller mieux et je sais que moi, enfin, je m'imaginerais pas vivre sans ça, quoi, sans cette espèce de sécurité de si ça va pas, ta psychose le fera savoir et tu pourras pas faire l'autruche, quoi. Donc il y a vraiment des côtés positifs et dans l'autisme aussi, il y a plein de côtés positifs. Donc ouais, dans ce sens-là, c'est pas que une peine.
Ces côtés positifs, est-ce que c'est pas aussi faire le tri dans tes relations, comme tu as pu nous l'expliquer, où tu choisis bien les gens avec qui tu peux avoir des relations, parce que tout le monde n'est pas capable d'être ouvert d'esprit. Est-ce que, en quelque part, c'est un peu un garde-fou, sans mauvais jeu de mots, sur les gens, en fait, qui pourraient te faire du mal? Simplement.
Ouais, moi j'ai du mal à voir ça comme quelque chose de positif parce que ça fait surtout être très seul. Enfin, enfin, je dis pas que je suis seul, j'ai quand même trouvé plein de personnes qui sont vraiment chouettes, qui sont ni validistes ni transphobes, mais c'est compliqué. Enfin, je sais que tous les coming out, des fois ça fait perdre des gens. Enfin, je sais que quand j'ai fait mon coming out de personnes trans, il y a des personnes que je considérais comme des amis et que je m'attendais vraiment pas à ce qu'elles réagissent mal, qui ont finalement réagi mal et du coup j'ai pas eu le courage de continuer à les fréquenter. Et pour le validisme, c'est pareil, il y a des personnes que j'adore sur plein d'autres points et qui, en fait, sont assez nazes du côté validiste. Bon, il y en a, je prends la peine de les éduquer, je leur donne une chance et je me dis qu'avec le temps, ça s'améliorera. Mais ouais, ça, enfin, d'un côté, c'est vrai qu'effectivement, je peux pas fréquenter de personnes horribles et il y a vraiment quelque chose qui me montre qu'elles sont horribles très rapidement, mais d'un autre côté, c'est quand même assez relou de pas pouvoir juste être avec n'importe quelle personne random et parce que c'est déjà difficile de trouver quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt, par exemple, le jeu vidéo, les mêmes goûts, des trucs comme ça. Et si en plus il faut que cette personne soit pas transphobe, pas validiste, c'est quand même un peu le parcours du combattant pour trouver des amis.
Je crois pas tout à fait. Je ne suis pas transidentitaire, mais en effet, rien qu'avec un handicap, d'être en fauteuil roulant, ça fait beaucoup de tri très ouais. Vite. Et c'est vrai que il y a une forme de solitude qui s'installe qu'on peut pas réellement lutter. Mais tu parlais de jeux vidéo, qui est une passion que nous partageons, il me semble, et on parle de validisme depuis tout à l'heure. On a fait une thématique sur l'accessibilité de jeux vidéo en fin d'année dernière avec des membres de Ubisoft. Est-ce que pour toi, qui fais une thèse aussi sur le sujet, est-ce que tu auras un exemple de jeu qui justement qui t'a accessible et qui t'a plu dans ses propos, dans la manière de parler de handicap peut-être? Est-ce que tu peux nous parler
un petit peu? C'est triste parce qu'avec toute ma thèse et toutes mes recherches, j'ai pas trouvé un seul jeu qui donne une représentation correcte du handicap. Après, je suis peut-être un peu exigeant parce que je veux que le handicap soit visible, qu'il y ait un impact dans le gameplay, qu'il n'y ait pas de validisme, que ce soit pas juste une simulation de symptômes, mais qu'on sente vraiment l'aspect social du handicap. Et franchement, j'ai pas trouvé un seul jeu qui fasse ça. Après, il y a un jeu qu'on a fait avec le collectif Gamaturgie qui s'appelle Le Bateau Folle. Enfin, c'est pas bon de faire de la pub, mais c'est vraiment parce que j'ai pas d'autres exemples à donner. On a essayé d'intégrer vraiment un gameplay de handicap dans un jeu de jardinage à la base, où en gros, on est une personne qui fait un burn-out, et on a notre jardinage, et le personnage va faire un re-burn-out au milieu parce qu'elle force trop, elle va devoir adapter son rythme de plantation pour pouvoir tenir psychologiquement. Et donc, on a essayé d'intégrer un peu tout ce que j'avais pas trouvé dans les jeux vidéo mainstream. Mais ouais, du coup, j'ai pas autant des exemples négatifs et des analyses de valises dans les jeux et de pourquoi ils sont tout pourris, j'en ai plein. Exemple positif, franchement, j'en ai pas trouvé.
Très bien, mais tu as raison de faire de la pub aussi, dire avec People, c'est aussi ça. Donc, n'hésitez pas, chers auditeurs, à essayer ce jeu, les bateaux folles, c'est ça?
Ouais, le bateau folle, c'est sur. Faut taper Gamaturgie sur Itch.
Donc, sur le site itch.io, vous pourrez retrouver le jeu, le bateau folle. Pour finir, on va peut-être parler d'un jeu justement qui est peut-être tout pourri en termes de représentation, mais qui a une certaine réputation. Que penses-tu du jeu Hellblade Senua's Sacrifice?
Oui, c'est vrai que j'aurais pu le citer comme bonne représentation, mais en fait, je ne l'ai pas fini parce qu'il est trop dur, parce que je suis très très nul en jeu vidéo. Enfin, je n'ai pas de réflexe, j'aime pas les jeux de combat, j'aime bien les jeux tranquilles. Du coup, je ne l'ai toujours pas terminé, mais effectivement, il y a plein de personnes qui m'en ont parlé de manière très positive. J'ai fait que la première demi-heure de jeu, je pense, après j'en ai marre de mourir. Mais ouais, c'est vrai que la représentation de la psychose a l'air d'être vraiment bien fichue, ça colle bien, puis c'est une histoire qui tourne pas uniquement autour de la psychose, enfin, la vraie histoire, un vrai truc avec la mythologie, tout ça. Donc ouais, je pense qu'il est très bien. Je sais que j'ai une personne que j'aime bien, qui est psychotique, qui dit que c'est son jeu préféré et tout, donc je le termine pour pouvoir en parler, effectivement.
Très bien, et bien, une deuxième référence pour vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à jouer à Hellblade Senua's Sacrifice pour avoir peut-être une meilleure idée de ce qu'est la psychose et ne plus avoir uniquement ces stéréotypes en tête. Merci beaucoup, Axel, d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. En tout cas, c'est mon cas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à la semaine prochaine, chers auditeurs.
Suivez Dear Valid People sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.